journaliste Alessandro Saebi a été agressé à Rome alors qu'il était avec son bébé de 6 mois. Les assaillants lui reprochaient le port d'un vêtement arborant l'inscription « Action antifasciste ». Le lendemain, une quarantaine de néofascistes ont attaqué un lycée de Gênes, occupé par des élèves de gauche, laissant des croix gammées sur les murs, tandis qu'un millier d'autres exécutaient des saluts fascistes sur la tombe de Benito Mussolini à Predappio. Ces événements révèlent une porosité persistante entre le néofascisme de rue et la famille politique de Giorgia Meloni. Malgré la rhétorique institutionnelle et la prudence affichée par le gouvernement, les jeunes militants de Fratelli d'Italia continuent de manifester leur adhésion à la mémoire du régime mussolinien. Vendredi 31 octobre, une vidéo a émergé sur les réseaux sociaux et dans les médias italiens. Elle montrait une action devant le siège de Fratelli d'Italia à Parme, symbole de l'ancrage territorial du parti de la présidente du Conseil Giorgia Meloni. Ces épisodes violents et ces démonstrations publiques rappellent que le pouvoir s'inscrit dans un paysage politique où l'extrême droite conserve une présence visible, parfois agressive, dans la société civile. Je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne et je suis chrétienne. Voici comment se présente Giorgia Meloni, figure de proue de l'extrême droite, de Fratelli d'Italia, et candidate la mieux placée pour diriger le gouvernement lors des élections de 2022. 3 ans plus tard, elle s'est imposée au sommet de l'État italien, transformant une posture initialement marginale en leadership, consolidée et stable, malgré un contexte national marqué par des tensions sociales et la violence politique. À seulement 15 ans, Giorgia Meloni rejoint le Fronte della Gioventù, la branche jeunesse du mouvement social italien, héritier idéologique du fascisme mussolinien. Elle progresse au sein de l'Alliance nationale, devient ministre pour la jeunesse dans le gouvernement Berlusconi en 2008 et fonde, en 2012, Fratelli d'Italia, aujourd'hui en tête des sondages, avec plus de 25% des intentions de vote. Cette trajectoire illustre sa capacité à institutionnaliser le populisme, à transformer un mouvement radical en une force politique durable. Sa campagne électorale de 2022, marquée par des symboliques post-fascistes et un discours purement eurosceptique, inquiétait énormément l'Europe. Meloni promettait notamment de remettre de l'ordre face aux usuriers de Bruxelles. 3 ans plus tard, l'Italie se révèle gouvernée par un exécutif qui est marqué par cette stabilité, capable de maintenir un équilibre subtil entre à la fois un pouvoir exécutif, la communication politique et publique et les institutions européennes. Cette stabilité, cependant, masque un environnement politique tendu, où les incidents violents se multiplient et où les journalistes et les intellectuels critiques vivent sous une pression constante. Le 16 octobre 2025, Sigfrido Ranucci, journaliste d'investigation, célèbre visage de l'audiovisuel public, a été visé par une attaque à la bombe contre son véhicule et contre celui de sa fille. Roberto Saviano, écrivain, journaliste engagé notamment contre la mafia, a également subi des actes de vandalisme et de destruction. Ces actes soulignent la fragilité du pluralisme et la dangerosité du climat médiatique italien pour ceux qui osent critiquer le pouvoir et se placer contre lui. Malgré tout, Giorgia Meloni conserve un taux d'approbation compris actuellement entre 34% et 43% et son parti remporte des élections régionales clés. En 3 ans, elle a consolidé un pouvoir mêlant l'autorité politique, le contrôle stratégique de l'information et une coalition durable. Cette maîtrise du paysage italien ne se limite pas aux sondages. Elle touche profondément le fonctionnement des institutions et le contrôle du récit public. C'est dans ce contexte que débute notre émission « Mocha politique ». Bienvenue à tous. Nous allons analyser comment Meloni a transformé le pluralisme, le populisme, en un outil durable, remodeler les institutions et l'espace médiatique. Et ce que cela signifie pour la démocratie italienne et pour la démocratie française. Elle a donc profondément transformé le pluralisme comme on le connaît. Pour amener à une forme de populisme déguisé, qu'on ne comprend pas bien à premier abord. Mocha politique va s'intéresser à ce populisme et à cette coalition future des droites. Giorgia Meloni incarne ce que les politologues qualifient aujourd'hui de populisme de gouvernement, un populisme qui ne se contente plus de dénoncer purement et simplement le système, mais qui s'emploie à le restructurer depuis l'intérieur. 3 ans après son arrivée au pouvoir, il est possible de décrire la stratégie de Fratelli d'Italia comme une forme d'institutionnalisation, on l'a déjà dit, du populisme, un processus méthodique qui transforme des idées radicales en instrument politique stable et durable. Le premier élément clé de cette stratégie, c'est celui de la coalition des droites. Fratelli d'Italia ne fonctionne évidemment pas seule. Giorgia Meloni a su réunir sous une même bannière le conservatisme catholique, le nationalisme identitaire et le libéralisme économique. Cette coalition, longtemps fragmentée et souvent rivale, permet au gouvernement de créer un bloc politique cohérent, capable de gouverner sans être dépendant de compromis instables avec le centre. C'était le cas auparavant, on avait une instabilité extrêmement forte en Italie. C'est une alliance pensée pour justement durer, qui combine un électorat fidèle, des relais institutionnels solides et un réseau médiatique aligné sur la ligne du parti. Le populisme italien repose également sur un récit émotionnel et symbolique. Meloni mobilise l'histoire, la mémoire du pays et les symboles nationaux pour légitimer ses décisions. Les références au régime fasciste sont subtilement évitées dans le discours officiel, mais le lien idéologique avec l'héritage de l'extrême droite reste omniprésent, comme en témoignent les manifestations de jeunes militants lors de la rentrée 2025. Ces mobilisations publiques, souvent accompagnées de gestes ou de symboles controversés, servent à rappeler la base et à montrer la force du mouvement, tout en restant distante des institutions. Une autre dimension, et pas des moindres, essentielle du populisme italien, est la gestion de l'opinion et des médias. Meloni comprend que gouverner implique de pouvoir contrôler un récit. Les journalistes critiques, comme on l'a déjà un petit peu dit, comme Sigfrido Ranunci ou Roberto Saviano, vivent sous une pression constante, qu'il s'agisse d'attaques physiques ou d'intimidations médiatiques. La diffusion d'informations est calibrée pour renforcer la légitimité du gouvernement, tout en marginalisant le plus possible ou en affaiblissant les voix dissidentes. Le message est clair, le populisme n'est pas seulement politique, il est aussi purement médiatique. Cette stratégie s'accompagne d'une normalisation progressive du discours populiste, ce qu'on entend généralement en France avec Jordan Bardella et sa stratégie de banalisation de l'extrême droite et Marine Le Pen. 3 ans plus tôt, Meloni apparaissait comme une figure radicale, eurosceptique, provocatrice. Aujourd'hui, elle parle à Bruxelles avec une posture rassurante et à Rome avec un ton nationaliste affirmé. Le populisme devient institutionnel. Il ne détruit pas les cadres existants, il les instrumentalise pour renforcer la légitimité de son parti. Enfin, le populisme italien se distingue par sa longévité, on l'a dit, et sa capacité à anticiper les crises. Contrairement au gouvernement précédent, souvent éclatant mais éphémère, Meloni a su construire un leadership stable, capable de résister aux pressions à la fois économiques, sociale et politique. Chaque crise est transformée en opportunité de consolidation, que ce soit face aux manifestants, dans la rue, aux attaques contre des journalistes, le gouvernement réussit à apparaître comme le garant de l'ordre et de la sécurité nationale. Cette combinaison entre à la fois une volonté de coalition des droites qui a réussi, puisqu'on le voit par rapport à cette stabilité du gouvernement 3 ans après, ce récit émotionnel qui se met en œuvre, ce contrôle médiatique et cette stratégie de normalisation, de banalisation, permet à Meloni de prolonger sa gouvernance et de préparer un modèle qui pourrait inspirer d'autres mouvements, justement en Europe, comme c'est le cas de la France. C'est pour ça que cela nous intéresse et qu'on en parle dans Mocha Politique. C'est exactement ce que certains analystes décrivent comme l'internale réactionnaire européenne. On entend beaucoup parler justement de ce terme actuellement, de l'internationale réactionnaire européenne. C'est un réseau tout simplement de figures politiques, intellectuels, qui cherchent à installer un populisme durable et institutionnalisé, de la Pologne à l'Italie, avec des relais médiatiques et financiers qui sont structurellement organisés. Ainsi, le populisme italien n'est plus un mouvement de contestation ponctuelle. Il est devenu un système politique fonctionnel, capable de gouverner, de convaincre et de transformer en profondeur l'État. Et c'est ce système que nous observons avec grande attention ici, car il offre un exemple concret de ce que, à la fois, une concentration des pouvoirs peut amener à une communication maîtrisée et à une démocratie contemporaine. Mocha Politique souhaite aussi s'intéresser, dans cet épisode, au pluralisme médiatique et au contrôle de l'information qui est absolument centrale et qui est un point clé. Si le populisme italien s'est institutionnalisé, on l'a dit au fil des années, il n'aurait jamais pu se déployer pleinement sans un contrôle stratégique de l'information. La première ministre, Giorgia Meloni, a compris que pouvoir maîtriser ce récit public, façonner l'opinion et réduire les voix critiques était essentiel pour stabiliser son pouvoir et durer. Cette logique s'inscrit dans un phénomène que certains observateurs appellent la mélonisation des médias publics italiens. Et ça m'a beaucoup intéressée. Une transformation progressive de l'audiovisuel public pour le rendre conforme aux objectifs politiques de gouvernement. Dès son arrivée, Mélanie s'est attaquée aux structures critiques ou indépendantes. En particulier, dans la RAI, le service public audiovisuel italien. Selon les enquêtes et les analyses journalistiques qui ont pu être faites, plusieurs directions et rédactions ont été réorganisées, avec des nominations de cadres qui étaient alignées sur la ligne du gouvernement. On peut penser justement à notre dernier épisode dans l'Expresso de la politique où je parle justement de la sphère et de la galaxie Bolloré qui s'institutionnalise. Les journalistes qui tentaient de résister à cette orientation en Italie, avec notamment la RAI, ont été complètement marginalisés ou confrontés à des pressions directes. C'est dans ce contexte que Sigrito Ranunci est une figure emblématique de la critique journalistique et de l'investigation, puisqu'il a été visé dernièrement par un attentat à la bombe, on l'a dit. Bien que l'attaque n'ait pas de coupable identifié, elle illustre l'intensité du climat de menace pesant sur les médias indépendants en Italie, qui est particulièrement préoccupante. La situation n'est pas isolée, comme on pourrait peut-être le penser. Roberto Saviano, écrivain, on l'a dit en introduction, et journaliste d'investigation, s'est également retrouvé sous attaque. Critiquer le pouvoir ou dévoiler les liens entre la politique, la criminalité, les réseaux de mafia organisés sont dangereux. Ces exemples démontrent que la protection des journalistes indépendants n'est pas seulement un enjeu institutionnel, mais une condition pour la survie du pluralisme médiatique. Au-delà des simples individus, comme on pourrait le penser parfois, le gouvernement contrôle toute la diffusion de l'information par la structuration éditoriale des médias publics et privés. Dans les rédactions, sous influence, l'information de terrain, les enquêtes critiques et les analyses indépendantes sont remplacées par des plateaux d'opinion où les idées proches du pouvoir sont souvent mises en avant, marginalisent alors les voix qui peuvent être divergentes. Et cette logique n'est pas uniquement italienne. On l'a dit, on la retrouve également en France, où elle reflète une stratégie déjà observée dans d'autres pays populistes, où le contrôle de l'information devient un levier central pour stabiliser le pouvoir et façonner le débat public. Le terme de « mélanisation » que j'ai employé il y a quelques minutes illustre bien ce phénomène, puisqu'on a dit que la RAI, autrefois considérée comme un pilier indépendant de l'information en Italie, est désormais assez soumise à une ligne éditoriale qui reflète les orientations, les choix idéologiques et politiques de Giorgia Meloni. Les critiques s'inquiètent d'une perte durable du pluralisme. Le paysage médiatique italien, qui devait offrir normalement un éventail de voix, se réduit progressivement à un message homogène, contrôlé et diffusé par une coalition de médias alliés au gouvernement. Cette transformation ne se limite pas aux médias publics. Les journaux privés, les chaînes des télévisions ont également été confrontés à une concentration du capital médiatique où des acteurs proches de la famille politique ou idéologique de Giorgia Meloni exercent une influence sur le contenu et les choix éditoriaux. La démocratie italienne se trouve donc confrontée à un défi majeur. Comment garantir que la diversité des opinions survive face à la confrontation et à la concentration des pouvoirs économiques et politiques dans le secteur de l'information? Le contrôle des médias n'est pas seulement une question de pure communication, comme on pourrait le penser, il est au cœur de ces stratégies populistes. La consolidation du pouvoir politique passe par la capacité à modeler la perception du public, à réduire la critique et légitimer les réformes controversées comme celle de la justice qu'on va analyser dans un instant. Les attaques contre les journalistes et la restructuration progressive des médias publics illustrent un principe central. Dans un système où le pluralisme est affaibli, le pluralisme, le populisme, peut se pérenniser. En limitant la capacité des citoyens à accéder à des informations indépendantes, sourcées, vérifiées et fiables. Ainsi, comprendre ce qu'on appelle la mélanisation des médias italiens et la pression sur le pluralisme n'est pas seulement un exercice purement journalistique, de communication, c'est analyser comment le pouvoir, lorsqu'il est combiné à un populisme institutionnalisé, peut remodeler profondément notre démocratie, la perception du public et la capacité de la société civile à critiquer et à débattre en toute liberté. Nous allons maintenant nous intéresser à la réforme judiciaire et aux dérives institutionnelles. 3 ans après son arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni a étendu son influence bien au-delà de la communication et des médias comme on l'a vu précédemment. Elle touche désormais les fondations mêmes de notre état de droit. La réforme judiciaire, actuellement en discussion au Sénat italien, illustre cette stratégie avec une clarté inquiétante. Adoptée récemment par la Chambre haute, cette réforme met en danger l'indépendance des magistrats et redéfinit le fonctionnement du système judiciaire italien. Le texte prévoit notamment une séparation stricte des carrières entre juge du siège et juge du parquet, ainsi qu'un tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la magistrature destiné à dissoudre les courants politiques traditionnels au sein de l'institution. Pour ses opposants, ces mesures ne sont pas motivées par une nécessité technique, mais par un objectif politique clair. Mettre sous pression la justice et limiter sa capacité à contrôler le pouvoir exécutif. La réforme consacre ainsi un encadrement beaucoup plus étroit du corps judiciaire qui pourrait affaiblir le contrôle démocratique et ouvrir la voie à des décisions favorables au gouvernement, ce qui pose un problème majeur. Et c'est une question qu'on peut également se poser avec l'affaire Sarkozy-Kadhafi et le procès libyen de financement libyen qu'on a vu récemment en France. Historiquement, la justice italienne, elle a joué un rôle central dans la vie politique du pays. Et je pense qu'il est intéressant de le rappeler. L'opération Main Propre, dans les années 1990, avait dévoilé un vaste système de corruption, provoquant la disparition de nombreuses formations politiques traditionnelles. Aujourd'hui, le gouvernement Meloni s'inscrit dans une logique un peu inverse, en restreignant certains instruments de contrôle judiciaire, en limitant les enquêtes politico-financières et en influençant la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Il crée un décalage inédit entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Pour que la réforme devienne définitive, un référendum national devra valider le texte, probablement en 2026. Mais même cette étape démocratique souligne un paradoxe. La réforme, largement soutenue par le parti, comme on peut bien le penser, de Meloni et de ses alliés, illustre la manipulation politique d'un instrument institutionnel, là où un contrôle impartial devrait normalement primer. Cette réforme ne peut être dissociée de la stratégie populiste, médiatique, précédemment décrite. La pression sur les magistrats s'inscrit dans le même continuum que la mélonisation des médias publics, où on souhaite contrôler l'information et influencer le jugement de la société, que ce soit à travers la presse ou à travers les tribunaux. Ensemble, ces leviers contribuent à renforcer la cohérence d'un pouvoir qui, tout en semblant stable, après 3 années au pouvoir, limite les contre-pouvoirs essentiels à la démocratie. En parallèle, Meloni poursuit un discours de légitimation fondé sur la sécurité, la nécessité d'avoir beaucoup plus d'ordre. Elle met en avant l'idée que la réforme est nécessaire pour protéger l'action politique et défendre la société contre des juges supposément politisés. Mais pour de nombreux analystes, la réalité est tout autre. Cette réforme constitue un outil politique destiné à affaiblir l'indépendance judiciaire et à consolider le rôle et le contrôle de l'exécutif. Rappelant des précédents historiques, tels que ceux de Berlusconi, qui rêvait depuis longtemps de maîtriser à la fois le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Comprendre cette réforme, c'est comprendre l'ampleur de la stratégie de Giorgia Meloni en Italie, une institutionnalisation du populisme soutenue par le contrôle de l'information et l'influence sur les institutions qui sont clés et centrales. La justice n'est plus seulement un contre-pouvoir, elle pourrait devenir ce terrain de bataille pour la consolidation future du pouvoir exécutif. Et le référendum à venir pourrait transformer durablement, définitivement, le paysage institutionnel italien. Après 3 années au pouvoir, le bilan de Giorgia Meloni est éclairant sur la manière dont un populisme peut remodeler un État. Le contrôle des médias, la pression sur la justice et l'institutionnalisation de sa coalition de droite montrent un système où le pouvoir politique est renforcé par la maîtrise de ce récit absolument central et l'affaiblissement progressif des contre-pouvoirs. Les attaques contre les journalistes, qu'il s'agisse de Sigrid Ranunchi ou de Roberto Saviano, la restructuration de l'audiovisuel public et la concentration des médias privés, illustre cette fragilisation du pluralisme de l'info, pierre angulaire de toute démocratie. La réforme judiciaire, on l'a dit, adoptée au Sénat et soumise à un futur référendum, cristallise cette même dynamique. En séparant strictement les carrières judiciaires et en modifiant la composition du Conseil supérieur de la magistrature, le gouvernement met sous pression l'indépendance des juges. Ce texte, qui sera validé ou non par le peuple italien, constitue une étape historique dans le contrôle institutionnel du pouvoir exécutif et traduit un véritable basculement du système démocratique vers ce populisme institutionnalisé d'État, on l'a dit, capable de pouvoir remodeler en profondeur les institutions à son avantage. Et c'est ça qui est central. Mais au-delà des institutions, du contrôle médiatique, Giorgia Meloni, elle a construit ce que beaucoup aimeraient voir arriver en France, notamment une coalition de droite cohérente, stable, qui réussit à se maintenir au pouvoir, réunissant à la fois des nationalistes, des conservateurs, des libéraux autour d'un projet commun. Cette alliance fonctionne comme un bloc politique durable, capable de gouverner et de résister aux crises, tout en normalisant progressivement un discours populiste et nationaliste. Elle illustre également cette manière dont des mouvements d'extrême droite peuvent transformer leur influence sociale en force politique institutionnelle, avec une stratégie pensée sur le long terme. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que cet exemple italien, il offre un miroir inquiétant et préoccupant pour la France. Comme l'explique notamment une interview dans le Courrier international avec des analystes français, la situation serait beaucoup plus explosive qu'en Italie si l'extrême droite prenait le pouvoir en France. Les réformes institutionnelles, le contrôle médiatique et la capacité à fédérer une coalition des droites montrent comment ce populisme bien organisé peut consolider le pouvoir et se maintenir, même dans des démocraties qu'on pense anciennes. La vigilance citoyenne, la protection de ce pluralisme qui nous est cher, qu'il soit médiatique ou judiciaire, apparaissent comme des enjeux essentiels pour maintenir un équilibre démocratique et éviter cette érosion des institutions. Ainsi, en analysant l'Italie sous Meloni, on observe un phénomène qui dépasse largement les frontières italiennes et les frontières françaises. La manière dont les populismes d'extrême droite, combinés à ce contrôle stratégique de l'info et de la manipulation institutionnelle, peuvent transformer une démocratie. Cette observation invite à réfléchir non seulement sur le cas pur et simple italien, mais sur le risque potentiel d'une contagion idéologique dans d'autres pays. C'est déjà le cas dans d'autres pays de l'Union européenne, mais on le voit de plus en plus aussi en France, où les discussions autour d'une coalition des droites et de l'émergence de figures populistes sont déjà au cœur du débat public. Le message est clair, le message est simple. Comprendre ces mécanismes, c'est préserver nos institutions, le pluralisme et la liberté d'expression, des valeurs centrales sans lesquelles la démocratie elle-même est menacée durablement. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode de Mocha Politique et je vous dis à très bientôt et on se retrouve